My dear sisters,
mes chères sœurs, je suis reconnaissant d'être avec vous. Je suis reconnaissant de parler aux femmes de l'Église rassemblées dans toutes les parties du monde. Ce soir, aujourd'hui, nous sommes particulièrement honorés par la présence du président Monson et du président Haring. Le chœur, quel chœur merveilleux, a touché nos cœurs. Nous avons été inspirés par les magnifiques messages des sœurs Thompson, Allred et Beck. Quelle merveilleuse présidence d'une organisation formidable de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Depuis que j'ai appris que j'allais être avec vous aujourd'hui, j'ai pensé aux nombreuses femmes qui ont modelé ma vie. D'abord, ma merveilleuse femme, Henriette, ma mère, ma belle-mère, ma sœur, ma bru, ma fille, ma belle-fille et mes nombreux amis. Toute ma vie, j'étais entouré de femmes qui m'ont inspiré, instruit et encouragé. Je suis ce que je suis aujourd'hui grandement grâce à ces femmes remarquables. Chaque fois que je suis en réunion avec les sœurs de l'Église, je ressens que je suis au milieu d'âmes remarquables, elles aussi. Je suis reconnaissant d'être ici, reconnaissant de vos talents, de votre compassion et de votre service. Plus que tout, je suis reconnaissant de ce que vous êtes, des filles chéries de notre Père Céleste à la valeur infinie. Je suis sûr que ce n'est pas surprenant pour vous, mais les différences entre les hommes et les femmes peuvent souvent être frappantes, physiquement et mentalement, autant qu'émotionnellement. L'un des meilleurs moyens qui me viennent à l'esprit pour illustrer cela est la manière dont ma femme et moi préparons un repas. Quand Henriette prépare un repas, c'est un chef-d'œuvre. Elle connaît des recettes du monde entier et elle prépare fréquemment des plats originaires des pays que nous avons visités. La présentation des aliments est stupéfiante. En fait, les plats sont souvent si beaux que cela semble un crime de les manger. C'est une fête tant pour la vue que pour le goût. Mais aussi parfait que tout soit pour la vue et pour le goût, Henriette demande toujours qu'on lui excuse quelque chose qu'elle pense imparfait. Elle dira, j'ai peur d'avoir mis un peu trop de gingembre ou la prochaine fois, je pense qu'il vaudrait mieux mettre un peu plus de curry ou une feuille de laurier de plus. Voyez maintenant comment moi je cuisine. Pour ce discours, j'ai demandé à Henriette quel était le plat que je cuisine le mieux. Elle a répondu, les œufs au plat. Non retourné. Mais ce n'est pas tout. J'ai une spécialité appelée Knusperchen. Le nom ressemble peut-être à quelque chose de délicieux, une délicatesse trouvée dans un restaurant chic. Je vais vous dire comment on le prépare. On coupe du pain français en petites tranches et on les grille deux fois. C'est ça la recette. Donc, entre les œufs au plat, même s'ils sont un peu gras, et les Knusperchen, même s'ils sont brûlés, quand je cuisine, je me sens assez héroïque. Peut-être ce contraste entre ma femme et moi est-il un tout petit peu exagéré, mais cela illustre quelque chose qui peut aller au-delà de la préparation des repas. Il me semble que nos merveilleuses sœurs sous-estiment parfois leurs compétences. Elles se concentrent sur ce qui manque ou est imparfait, plutôt que sur ce qu'elles accomplissent ou sur ce qu'elles sont en réalité. Vous reconnaissez peut-être cette particularité chez quelqu'un que vous connaissez très bien. La bonne nouvelle est que cela souligne une qualité admirable, le désir inné de plaire au Seigneur au mieux de nos capacités. Malheureusement, cela peut aussi entraîner la frustration, l'épuisement et la tristesse. Aujourd'hui, je veux m'adresser à celles qui sont déjà senties incompétentes, découragées ou fatiguées. En résumé, je veux vous parler à toutes. Je prie aussi pour que le Saint-Esprit amplifie mes paroles et leur donne plus de signification, de portée et d'inspiration. Nous savons qu'il peut parfois être difficile de garder la tête hors de l'eau. En fait, dans notre monde de changements, de difficultés, de listes de contrôle, il peut sembler parfois presque impossible d'éviter de se sentir submergé par la souffrance et le chagrin. Je ne veux pas dire que nous pouvons simplement appuyer sur un bouton et annihiler les sentiments négatifs qui nous dépriment. Ce n'est pas un discours de motivation, ni une demande à celles qui sont en train de sombrer dans les sables mouvants d'imaginer qu'elles sont en fait en train de se détendre sur une plage. Je reconnais que dans notre vie à tous, il y a de réels soucis. Je sais qu'il y a ici ce soir des cœurs qui éprouvent un profond chagrin. D'autres sont aux prises avec des craintes qui troublent l'âme. Pour certaines, la solitude est leur épreuve secrète. Ces choses ne sont pas insignifiantes. Mais je voudrais parler de deux principes qui peuvent vous aider à trouver le chemin de la paix, de l'espérance et de la joie, même dans les moments d'épreuve et de détresse. Je veux parler du bonheur de Dieu et de la manière dont chacun de nous peut y goûter malgré les fardeaux qui nous écrasent. Je vais commencer par poser une question. À votre avis, quelle est la plus grande sorte de bonheur possible? Pour moi, la réponse est le bonheur de Dieu. Cela amène à une autre question. Quel est le bonheur de notre Père Céleste? Peut-être est-il impossible d'y répondre, car ces voix ne sont pas nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Nous ne connaissons pas la signification de tout, mais nous savons que Dieu aime ses enfants, parce qu'il a dit, « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Notre Père Céleste est capable d'accomplir ces deux grands objectifs, l'immortalité et la vie éternelle de l'homme, parce qu'il est un Dieu de création et un Dieu de compassion. Créer et être compatissant sont deux objectifs qui contribuent au bonheur parfait de notre Père Céleste. Créer et faire montre de compassion sont deux activités dans lesquelles nous, ses enfants d'esprit, pouvons et devons suivre son exemple. L'œuvre de création tout d'abord. Le désir de créer est l'une des aspirations les plus profondes de l'âme humaine. Quels que soient nos talents, notre formation, nos antécédents, nos compétences, nous avons tous le souhait inhérent de créer quelque chose qui n'existait pas. Tout le monde peut créer. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent, un poste ou de l'influence pour créer quelque chose de valable ou de beau. La création apporte beaucoup de satisfaction et un profond sentiment d'accomplissement. Nous progressons et faisons progresser autrui quand nous prenons la matière inorganisée pour en faire quelque chose de beau. Et je ne parle pas du nettoyage des chambres de vos enfants adolescents. Vous pourriez dire, je ne suis pas créative. Quand je chante, je suis toujours à demi-ton au-dessus ou en dessous de la note. Je ne sais pas tracer une ligne sans règle. Et le pain que je fais ne peut servir que de presse-papier ou de bloc-porte. Si c'est ce que vous ressentez, réfléchissez et souvenez-vous que vous êtes des filles d'esprit de l'être le plus créatif de l'univers. N'est-il pas remarquable de penser que nos esprits ont été façonnés par un Dieu infiniment créatif et éternellement compatissant? Réfléchissez à cela. Votre corps d'esprit est un chef-d'œuvre dont la beauté, le fonctionnement et les capacités défient l'imagination. Mais dans quel but avons-nous été créés? Nous avons été créés dans le but express et avec le potentiel d'avoir une plénitude de joie. Notre droit par la naissance est l'objectif de notre grand voyage sur cette terre et de rechercher et d'éprouver un bonheur éternel. L'une des façons de le trouver est de créer des choses. Si vous êtes mère, vous participez avec Dieu à son œuvre de création, non seulement en donnant un corps physique à vos enfants, mais aussi en les instruisant et en les élevant. Si vous n'êtes pas mère à présent, les talents créatifs que vous cultivez vous prépareront pour ce jour-là, dans cette vie ou dans la suivante. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas de talent, mais c'est faux, car nous avons tous des talents et des dons, chacun de nous. Les limites de la créativité vont bien au-delà d'une broderie ou d'une feuille de papier. Elles ne nécessitent pas de pinceau, de stylo, ni de touche de piano. Créer signifie amener à l'existence quelque chose qui n'existait pas, des jardins colorés, des maisons harmonieuses, des souvenirs familiaux, des rires en cascade. Ce que vous créez n'a pas besoin d'être parfait. Peu importe si les œufs sont un peu gras ou si le pain est brûlé. Ne laissez pas la crainte de l'échec vous décourager. Ne laissez pas les critiques vous paralyser. Qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Si vous vous sentez quand même incapable de créer, commencez petit. Commencez par voir combien de sourires vous pouvez créer. Écrivez une lettre de remerciement. Apprenez une nouvelle compétence. Choisissez un endroit et embellissez-le. Il y a près d'un siècle et demi, Brigham Young s'est adressé aux saints de son époque. Il a dit, « Les saints ont une grande œuvre à accomplir. Progressez, améliorez-vous en tout et embellissez tout ce qui vous entoure. Cultivez la terre, cultivez votre esprit, construisez des villes, décorez vos maisons, faites des jardins, des vergers, des vignes et rendez la terre si plaisante que lorsque vous regarderez vos labeurs, vous puissiez le faire avec plaisir et que des anges puissent se réjouir de venir voir vos beaux endroits. » Entre-temps, cherchez continuellement à orner votre esprit de toutes les grâces de l'Esprit du Christ. Fin de citation. Plus vous faites confiance à l'Esprit et plus vous vous reposez sur lui, plus votre capacité de créer grandit. C'est la possibilité qui vous est donnée dans cette vie et votre destinée dans la vie à venir. Mes sœurs, faites confiance à l'Esprit et reposez-vous sur lui en profitant des occasions normales de votre vie quotidienne pour créer quelque chose de beau et d'utile. Vous améliorez non seulement le monde qui vous entoure, mais aussi votre monde intérieur. Être compatissant est une autre grande œuvre de notre Père Céleste et c'est une caractéristique fondamentale de notre peuple, de qui nous sommes. Vivant actuellement. Il nous est commandé, va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. Les disciples du Christ à toutes les époques se sont distingués par leur compassion. Les gens qui suivent le Sauveur sont disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. Lorsque nous allons vers autrui pour être une bénédiction pour lui, nous sommes aussi bénis. Le service et le sacrifice ouvrent les écluses des cieux, nous permettant de recevoir des bénédictions de choix. Il est certain que notre Père Céleste bien-aimé se réjouit en voyant des gens prendre soin des plus petits de ses enfants. Lorsque nous élevons quelqu'un, nous nous élevons un peu nous-mêmes. Spencer Kimball enseignait que plus nous servons notre prochain de la bonne manière, plus notre âme se densifie. Gordon B. Hinckley croyait au pouvoir guérisseur du service. Après la mort de sa femme, il a donné un grand exemple à l'Église par la manière dont il s'est plongé dans le travail et dans le service. Le président Hinckley a dit à une femme qui venait de perdre son ami, son mari, « Le travail guérira votre chagrin. Rendez service à autrui. » Ce sont des paroles profondes. Si nous nous consacrons au service d'autrui, nous découvrons notre propre vie et notre propre bonheur. Lorenzo Snow a dit quelque chose de semblable. Lorsque vous vous sentez un peu morose, regardez autour de vous et trouvez quelqu'un qui est dans une situation pire que la vôtre. Allez le voir pour connaître ses difficultés, puis essayez de les résoudre avec la sagesse que le Seigneur vous a accordée. Et bientôt, votre morosité aura disparu. Vous vous sentirez léger. L'Esprit du Seigneur sera sur vous et tout semblera illuminé. Fin de citation. À notre époque de psychologie à quatre sous, de télévision de bas étage et de manuels pour atteindre le bien-être par soi-même, ce conseil peut paraître à l'opposé de l'intuitif. On nous dit parfois que la solution de nos maux se trouve en nous-mêmes, que nous devons nous faire plaisir, acheter mieux maintenant et payer plus tard, satisfaire nos désirs, même aux dépens de notre entourage. Il est parfois prudent de s'occuper d'abord de nos propres besoins, mais avec le temps, cela ne mène pas à un bonheur durable. Je crois que les femmes de l'Église, quel que soit leur âge et leur situation familiale, comprennent et appliquent au mieux les paroles de James Barry, l'auteur de Peter Pan. Les gens qui apportent le soleil dans la vie d'autrui en profitent aussi. J'ai souvent été témoin d'actes discrets de gentillesse et de compassion de femmes nobles qui donnaient d'elles-mêmes, animées par une charité généreuse. Je suis ému quand j'entends parler de sœurs de l'Église qui se sont précipitées pour aider des gens dans le besoin. Il y a des membres de l'Église, hommes et femmes, qui se demandent comment contribuer au royaume. Parfois, des femmes célibataires, divorcées ou veuves, se demandent s'il y a une place pour elles. Chaque sœur de l'Église a une importance énorme, non seulement pour notre Père Céleste, mais aussi pour l'édification du royaume de Dieu. Il y a quelque chose à faire. Il y a un an, à cette réunion, le président Monson, bien-aimé, a enseigné qu'il y a des occasions de servir tout autour de vous. Il a ajouté, souvent de petits actes de service sont tout ce qui est nécessaire pour encourager et bénir autrui. Sœurs, regardez autour de vous. Là, à la réunion de Sainte-Seigne, il y a une jeune maman avec plusieurs enfants. Proposez-lui de vous asseoir à côté d'elle et de l'aider. Là, près de chez vous, un jeune homme semble découragé. Dites-lui que vous aimez sa compagnie, que vous sentez sa bonté. De véritables paroles d'encouragement ne nécessitent qu'un cœur aimant et attentionné, mais elles peuvent avoir une influence éternelle dans la vie des gens qui vous entourent. Vous, sœurs merveilleuses, montrez de la compassion envers les autres pour des raisons qui dépassent le désir de bénéfice personnel. En cela, vous suivez l'exemple du Sauveur, qui, tout en étant roi, n'a pas cherché à être en vue, ni ne s'est même soucié d'être remarqué. Il ne se souciait pas d'être en compétition. Ses pensées étaient toujours tournées vers autrui. Il a instruit, guéri, conseillé, et écoutez autrui. Il savait que la grandeur n'a rien à voir avec les signes extérieurs de richesse ou de situation. Il a enseigné et appliqué le point de doctrine suivant. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pour finir, le nombre de prières que nous faisons peut contribuer à notre bonheur, Mais le nombre de prières auxquelles nous répondons peut avoir encore plus d'importance. Ouvrons les yeux et voyons les cœurs lourds. Remarquons la solitude et le désespoir. Ressentons les prières silencieuses des personnes qui nous entourent et soyons un instrument dans les mains du Seigneur pour exaucer ces prières. Mes chères sœurs, ma foi est simple. Je crois que si vous respectez fidèlement et diligemment les commandements de Dieu, si vous rapprochez de lui avec foi, espérance et charité, tout concourra à votre bien. Je crois que si vous vous plongez dans l'œuvre de notre Père, si vous créez de la beauté et montrez de la compassion envers les autres, Dieu vous entourera des bras de son amour. Alors, le découragement, le sentiment d'incompétence et la fatigue feront place à une vie pleine de sens, de grâce et d'accomplissement. En tant que fille d'esprit de notre Père céleste, vous avez le bonheur pour héritage. Vous êtes des filles de choix de notre Père céleste. Et par les choses que vous créez et votre service compatissant, vous êtes une grande force bénéfique. Vous rendrez le monde meilleur. Relevez la tête. Tenez-vous droite. Dieu vous aime. Nous vous aimons et nous vous admirons. J'en témoigne et je vous laisse ma bénédiction d'apôtre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.